18h30 à Paris, l'heure du grand débat avec Romain Ozouy. Bonsoir Romain.
Bonsoir Véronique, et ce soir dans le débat du jour, nous évoquons la CEDEAO.
Le débat du jour. Romain Ozouy.
Et oui, la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui, eh bien, officiellement depuis hier, compte 3 membres de moins. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso, 3 pays qui sont dirigés par des régimes militaires, ce qui leur a valu des sanctions de la part de la CEDEAO. Et c'est suite à cela, mais alors les griefs, vous le verrez, ne sont pas les seuls, que Bamako, Niamey et Ouagadougou ont décidé de quitter la CEDEAO. Notre question ce soir, est-ce que celle qui va cette année célébrer ses 50 ans d'existence est aujourd'hui une organisation à bout de souffle? La CEDEAO qui voit émerger l'AES, l'Alliance des États du Sahel, au sein desquels justement sont réunis désormais le Mali, le Niger et le Burkina. L'AES est-elle une menace? Est-elle une complémentarité? Est-elle l'avenir de l'intégration ouest-africaine? Eh bien, soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos deux invités ce soir à mes côtés en studio, Cédric Abba, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste et écrivain, président du Centre international d'études et de réflexion sur le Sahel, rédacteur en chef du site mondeafrique.com. Notre deuxième invité est en ligne avec nous. Bonsoir, Gilles Yabi.
Bonsoir.
Analyste politique et économiste, fondateur du think tank Wati, groupe de réflexion citoyen pour l'Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Cédric Abba, pour évaluer où en est la CEDEAO aujourd'hui, est-ce qu'on peut d'abord rappeler en quelques mots quelle est la vocation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest?
Vous l'avez bien dit, la CEDEAO a été créée il y a 50 ans avec pour mandat principal de favoriser l'intégration des pays d'Afrique de l'Ouest. Et dans ce cadre, au début, il y avait 16 pays d'Afrique de l'Ouest. La Mauritanie s'était retirée dans les années 2000. Pour des raisons sur lesquelles on ne va pas s'attarder sans doute. Et aujourd'hui, il y a 3 pays qui se sont retirés, nous sommes à 12. Mais la vocation d'intégration a permis à la CEDEAO, et c'est à mettre à son crédit, de très vite favoriser la libre circulation des personnes et des biens. Et nous étions dans une sorte d'espace Schengen d'Afrique de l'Ouest, où un citoyen du Niger peut circuler dans l'ensemble des pays avec sa pièce d'identité, seulement avec son passeport. Donc sur ce plan de la libre intégration, et les échanges économiques aussi ont été favorisés par la CEDEAO, puisque la CEDEAO affiche quand même un de très bon taux, pas le meilleur, mais en tout cas un beau d'échanges économiques intra-régionaux qui sont de l'ordre de 19 à 20%, ce qui est une bonne moyenne par rapport aux autres zones d'intégration économique. Après cette progression dans l'intégration économique et politique, à partir de 2001, je pense que c'est là que les problèmes ont commencé, la CEDEAO a ajouté ce qu'on appelle le protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance qui a été ajouté à partir de la rencontre de Dakar. Et c'est cette dimension qui a amené aujourd'hui à ce qu'on peut appeler les incompréhensions avec les juntes militaires. Voilà les deux vies de la CEDEAO, si on peut résumer rapidement.
Et vous avez dit les deux missions finalement de la CEDEAO, circulation des personnes et des biens, ça se poursuit avec les 3 pays sortants. La CEDEAO a demandé à ses pays membres de, je cite, reconnaître jusqu'à nouvel ordre les passeports et les cartes d'identité nationaux des citoyens des pays sortants, à condition qu'ils aient le logo de la CEDEAO sur ces cartes d'identité, évidemment. Et puis, concernant les échanges de biens et de services, ça aussi, ça a été précisé suite au départ du Mali, du Niger et du Burkina. Eh bien, ces échanges vont pouvoir se poursuivre selon les règles en vigueur de l'institution. Malgré tout, Cédric Abba, vous qui parlez de l'intégration, est-ce que le départ du Mali, du Niger, du Burkina Faso, c'est un échec de cette intégration voulue par la CEDEAO?
Il faut être très honnête. Quand on regarde la vocation de la CEDEAO, qui est celle de l'intégration économique, le fait qu'on soit passé d'abord de 16 à 15, le fait qu'on soit passé de 12, représente une régression. Maintenant, on peut interroger les raisons qui ont amené à cette incompréhension. Et est-ce que la meilleure solution était le départ? Mais pour une une organisation dont la vocation est de favoriser l'intégration, le départ de ses membres constitue un revers. Et ça doit être l'occasion peut-être de faire une autocritique.
Ah, c'est la question que j'allais poser.
Pour voir ce qui n'a pas marché et ce qui peut marcher mieux. Maintenant, sur les difficultés, à mon avis, il y a des difficultés réelles. Mais c'est au niveau de la solution. Est-ce que la solution était simplement le départ? Mais il y a un certain nombre de raisons, de critiques qui ont été avancées par rapport à ce que la CEDEAO a pu faire ou qu'elle n'a pas pu faire. Ça, à mon avis, ce sont des choses qu'il faut regarder objectivement et froidement.
Alors, justement, sur les critiques qui ont été formulées par les pays sortants, il y a le fait qu'il y ait des sanctions qui ont été formulées de la CEDEAO à leur encontre. On rappelle que ce sont des régimes militaires qui dirigent aujourd'hui Mali, Burkina et Niger. La CEDEAO qui a été accusée d'être inféodée à la France. Ça, c'était des accusations aussi de ces trois pays sortants. Gilles Yabi, quelle autocritique avant d'évoquer ses griefs, mais quelle autocritique peut faire la CEDEAO après ses départs?
Oui, alors je crois qu'il y a évidemment beaucoup d'éléments et beaucoup de reproches qu'on peut faire à la CEDEAO et je dirais de manière plus spécifique à l'instance politique la plus élevée de la CEDEAO, qui est la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Et je rappelle tout de suite que la conférence des chefs d'État et de gouvernement, qui réunit justement les dirigeants des pays de la région, membres de l'organisation, ils ne sont pas issus de la CEDEAO, ils sont issus des processus politiques nationaux. Cela me semble être très important. Ça veut dire qu'à un moment donné, des dirigeants politiques peuvent prendre des mesures qui ne sont pas les bonnes. Cela, de mon point de vue, ne remet pas en cause l'ensemble d'une organisation qui a été créée pour incarner un projet d'intégration à l'échelle d'une région africaine.
Donc ces trois pays n'auraient pas dû quitter la CEDEAO.
Alors déjà, je pense que dans la réalité, si on veut être précis, ce sont les dirigeants de ces trois pays à un moment donné de l'histoire, et ce sont des dirigeants qui en plus sont quand même arrivés par des coups d'État militaires et donc en violation pas simplement des textes de la CEDEAO, mais en violation des constitutions de leur propre pays. Ce sont des dirigeants militaires qui ont décidé à un moment donné de retirer leur pays, leur population et leurs États de la communauté régionale. C'est très important. Pas exactement la même chose que lorsqu'on a un processus consultatif voit un référendum qui permet à des populations à un moment donné de décider de sortir d'une communauté. Ce fut le cas, par exemple, en Europe, évidemment, du Royaume-Uni. Donc, je crois que c'est une précision qui est importante parce que ça veut dire à nouveau qu'aujourd'hui, on ne peut pas affirmer que le choix de sortir de la CEDEAO est un choix majoritaire au sein des populations de ces trois pays. L'autre élément qui me semblait aussi important de dire tout de suite, lorsque Cédric Abba a rappelé un peu les étapes de la CEDEAO, pour moi, il y en a trois plutôt que deux. Il y a eu la création avec cette idée, effectivement, d'abord de se focaliser sur l'intégration économique, d'où le nom de la CEDEAO, communauté économique. Et ensuite, il y a une autre phase très importante, c'est la phase des conflits. C'est la phase des conflits dans la région, Libéria-Sierra Leone, où la CEDEAO a dû intervenir, y compris militairement, mais aussi par des médiations politiques à l'époque, avec des coûts très importants, humains et financiers, pour cette organisation et pour les États membres, en réalité, qui sont derrière l'organisation, notamment le Nigeria à l'époque. C'est vrai qu'à l'époque, d'ailleurs, les dirigeants, beaucoup de dirigeants étaient militaires, pas tous. Et donc, aujourd'hui, on entend beaucoup, la CEDEAO a été créée par des militaires, donc, il n'y a pas de contradiction avec le fait que des militaires décident de retirer trois pays de la CEDEAO. Je pense que c'est une vision qui ne correspond simplement pas à une bonne compréhension des étapes de la construction de la CEDEAO. La dernière étape, ce fut justement le protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance. Pour moi, les problèmes n'ont pas commencé au moment où on a décidé d'avoir des règles, disons, le choix de l'état de droit et de la démocratie à l'échelle de la région. Les problèmes ont commencé ou les problèmes ont toujours été là au niveau des États membres et de la culture démocratique, ce qui est différent, évidemment, du fait de proclamer qu'on a des constitutions. C'est la culture démocratique et la volonté de travailler au niveau des États membres à la construction, d'États qui soient démocratiques.
On va pas refaire l'histoire, évidemment, de la CEDEAO. On va surtout savoir quel sera l'avenir quel pourrait être l'avenir de la CEDEAO. Est-ce que, Gilles Yabi, vous pensez que la CEDEAO n'aurait pas dû prononcé de sanctions à l'encontre du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Est-ce que c'est contraire finalement à la vocation de cette organisation d'intégration ouest-africaine et est-ce qu'elle n'aurait pas dû non plus, parce que ça fait partie des choses qui sont reprochées par Bamako, Niamey et Ouagadougou, et est-ce qu'elle n'aurait pas dû non plus aller même jusqu'à menacer l'un de ces pays, alors c'est le Niger en l'occurrence, eh bien d'une intervention militaire?
Oui, alors il se fait que ce sont des sujets, des crises que je suis effectivement depuis quelques années et que sur les deux points, les sanctions et la menace d'intervention militaire au Niger, je me suis toujours exprimé et d'autres voix également de la région pour dire qu'il s'agissait là d'erreurs très graves qui ont été commises par les chefs d'État de la région. Mais je pense que sur les sanctions, il faut être plus précis. Le fait qu'il y ait eu des sanctions qui soient prévues par les textes en cas de violation de la Constitution et notamment en cas de changement anticonstitutionnel de gouvernement, je pense que ça, c'est quand même tout à fait normal. Si vous avez un protocole additionnel qui est ratifié et signé par les États membres et que lorsque une disposition importante comme celle-là est violée, lorsqu'on a des coups d'État et qu'il n'y a absolument aucune sanction, aucune conséquence, évidemment, on voit bien que ça ne tient à rien d'avoir un protocole additionnel avec un certain nombre de règles. Donc moi, je fais une différence entre les sanctions qui ont été prises au titre, disons, des textes de la CEDEAO qui sont clairs, notamment sur le fait que les pays sont suspendus, ça ne met pas fin à leur appartenance, ça les suspend, et un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place à ce moment-là, et le fait qu'on ne soutient plus les fonctionnaires, disons, de ces États qui voudraient avoir le soutien de la CEDEAO, etc. Donc, il y a des sanctions de ce type qui sont des sanctions politiques qui me semblaient tout à fait en accord avec l'esprit de l'organisation. Par contre, les sanctions économiques et financières qui sont allées très loin et qui ont bloqué même l'accès des États à leurs comptes en utilisant cette fois-ci une autre organisation, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, je pense que là, très clairement, on est allé au-delà de ce qui était prévu par les textes. Et il y a une partie de ces sanctions qui, effectivement, me semble être contestable, même sur le plan légal. Et donc, des erreurs ont été faites, mais cela ne remet pas en cause, à mon avis, à nouveau, le projet d'intégration. Et il faut quand même le dire.
Attendez, j'aurais donné la parole au syndicat, parce que le temps. On a entendu vos réactions, mais je voudrais avancer dans ce débat. On pose la question, est-ce que la CEDEAO est à bout de souffle? Sidi Kaba, le départ du Mali, du Burkina et du Niger, cela soulève quelles limites de la CEDEAO? Est-ce que la CEDEAO doit discuter avec, doit garder sous son giron des pays dont le régime est militaire? Est-ce que ça va à l'encontre de la mission démocratique de la CEDEAO? Est-ce que la CEDEAO doit cesser ses appels aux militaires? Parce qu'on n'a pas précisé que là, il y a une période transitoire de 6 mois qui débute et que Mali, Niger et Burkina peuvent revenir dans la CEDEAO. Est-ce que finalement, la CEDEAO doit un petit peu se ranger dans cette évolution politique ou est-ce que ce serait un renoncement d'accepter finalement qu'il y ait 3 pays qui soient dirigés par des régimes militaires?
Non, dans les étapes que j'ai énumérées, celle de la construction, M. Gilles a parlé d'une 3e étape, mais lorsqu'on regarde la 2e étape, celle que moi je considère comme la 2e étape, celle de l'ajout du protocole additionnel de Dakar, il est clairement indiqué dans ce protocole un certain nombre de choses, notamment les modalités d'accès au pouvoir qui doivent être passées par les voies constitutionnelles et par la voie des élections.
Donc c'est à l'encontre de
la CEDEAO, y compris de l'Union africaine, puisque l'Union africaine a suspendu ses États qui ont été le théâtre de coups d'État.
Maintenant, l'incompréhension
est venue aussi du fait que peut-être que ce qu'on a vu jusqu'ici, il ne faut pas oublier que dans le cas du Niger, par exemple, lorsque le président Tandja avait décidé de rester au pouvoir et de modifier la constitution, la CEDEAO a pris des dispositions contre le Niger, puisqu'il est prévu dans les dispositions de la CEDEAO que 6 mois avant les élections, on ne change pas les règles du jeu électoral. Donc, il y a eu des sanctions par le passé. Mais la CEDEAO jusqu'ici, parce que ce n'est pas les premiers coups d'État, ça n'était tenu à la suspension des États, de ces instances. Les États sont suspendus, il y a des sanctions contre les pays, mais c'est la première fois que l'on voit un embargo aérien et terrestre, la fermeture de frontières aériennes et terrestres, la suspension des échanges économiques, y compris la suspension de la fourniture d'électricité dans le cas du Niger. Donc ça, ça a remonté une partie de l'opinion contre la CEDEAO. Et je pense que la CEDEAO a commis des erreurs d'appréciation. Et ces erreurs d'appréciation ne vont pas amener à jeter la CEDEAO totalement, mais on doit être honnête pour reconnaître qu'il y a eu des erreurs d'appréciation dans la gestion de cette affaire. Et la faiblesse, une des faiblesses de l'argumentaire aujourd'hui, quand on dit que les États, les pays ne sont pas, les régimes ne sont pas légitimes pour retirer leur État, y compris ceux qui avaient créé la CEDEAO, et non plus n'avaient pas fait de référendum ni de consultation devant leur Parlement. Donc le débat ne se situe pas à ce niveau seulement.
Vous avez évoqué les opinions publiques. Quelles sont-elles à l'égard de la CEDEAO aujourd'hui en Afrique de l'Ouest? Pas seulement Mali, Niger, Burkina.
Vous savez, c'est toujours très difficile de quantifier.
Ouais.
Parce que si on lit que les réseaux sociaux, ou à raison du rétrécissement de l'espace démocratique dans les pays du Sahel aujourd'hui, les voix les seules autorisées sont ceux qui critiquent la CEDEAO sans nuance. Alors qu'on doit faire de la nuance, la CEDEAO n'a pas été totalement inutile. Donc il est difficile aujourd'hui, à défaut d'instruments de mesure objectifs, de dire quel est le côté majoritaire. Simplement, si on regarde les intérêts des pays de l'AES, ils sont fondamentalement imbriqués avec ceux des pays de la CEDEAO. Si vous prenez un pays comme le Niger, il a 8 régions administratives. Sur les 8, 5 sont frontalières du Nigeria. Donc, objectivement, vous ne pouvez pas séparer aujourd'hui un pays comme le Niger de la CEDEAO parce que les intérêts du Niger ne se trouvent que dans la CEDEAO. Et les premiers partenaires du Niger sont des pays qui sont dans la CEDEAO avant d'être des pays qui sont l'AES comme le Burkina et le Mali.
Et d'ailleurs, on a précisé que la circulation des biens et des personnes, pour l'instant, se poursuit entre les pays sortants et les pays de la CEDEAO. Mais concrètement, en quoi ça menace? Est-ce que ça menace la CEDEAO, cette situation de passer de 15 à 12 membres?
Non, objectivement, je ne pense pas qu'il y ait que ça paralyse l'institution CEDEAO, mais simplement du point de vue des États.
Est-ce que la CEDEAO est toujours aussi incontournable aujourd'hui?
Moi, je pense que de toute façon, c'est peut-être pour ça que les pays eux-mêmes de l'AES ont fait une déclaration avant la CEDEAO pour dire qu'ils étaient d'accord avec les principes de la libre circulation des personnes et des biens. Parce que les intérêts de ces pays, quand vous prenez les intérêts d'un pays comme le Mali, ils ne sont pas fondamentalement avec le Niger ou le Burkina. Ils sont avec le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Donc, sur un plan pragmatique, sur un plan objectif, ces pays-là vont continuer à travailler avec la CEDEAO. Et pour moi, la raison a prévalu, le fait que le 29 janvier, que chacune des parties ait reconnu le principe de continuer à travailler comme si de rien n'était, font que les enjeux d'avenir, notamment la question sécuritaire, la question d'intégration économique. Aujourd'hui, l'épicentre de la crise sécuritaire en Afrique de l'Ouest, ce sont les trois pays de l'AES. Donc, si on veut avoir des résultats sur le plan sécuritaire, il faut qu'on travaille, il faut que ces pays travaillent aussi avec la CEDEAO. Comme les pays de la CEDEAO, quand vous prenez le Bénin et le Togo, qui sont aujourd'hui dans le viseur des groupes terroristes, ce sont des pays qui ne sont pas dans l'AES, mais l'AES aura besoin de travailler avec eux, fondamentalement.
Et on va parler à présent de cette alliance des États du Sahel et des enjeux sécuritaires et économiques que cela soulève.
RFI, le débat du jour, Romain Ozoui.
La CEDEAO est-elle à bout de souffle, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, amputée de trois de ses membres, après le départ officiel hier du Mali, du Niger et du Burkina, la CEDEAO qui célèbre cette année ses 50 ans d'existence. Mes deux invités sont Cédric Abba, journaliste et écrivain, que l'on entendait, qui est président du Centre international d'études et de réflexion sur le Sahel, rédacteur en chef du site mondeafrique.com, et Gilles Yabi, analyste politique et économiste, fondateur du think tank Wati, groupe de réflexion citoyen pour l'Afrique de l'Ouest. Gilles Yabi, que faut-il attendre de cette alliance des États du Sahel, donc qui a été fondée finalement par les trois pays sortants en 2023, Mali, Niger, Burkina Faso, qui est devenue une confédération qui monte en puissance. Il y a de plus en plus de pays qui montent leur intérêt. Ça veut dire quoi de l'avenir de la CEDEAO? Est-ce que l'AES s'est appelé à être quoi, une CEDEAO bis, une complémentarité de la CEDEAO? Est-ce que c'est l'avenir de la CEDEAO?
Peut-être que la question peut-être la plus simple, en tout cas, de mon point de vue, c'est la dernière, c'est-à-dire est-ce que l'AES est l'avenir de la CEDEAO? Personnellement, je ne le pense pas, et je ne pense pas qu'en réalité, il faille comparer ces deux blocs comme étant des blocs comparables. En termes de nombre, hein, vous avez la CEDEAO moins les trois États, ça reste 12 États membres. Et dans ces 12 États membres, vous avez le mastodonte, il y en a un seul en réalité dans la région, sur le plan économique et démographique, c'est le Nigeria. Et vous avez aussi les deux autres économies les plus importantes, la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui sont aussi les pays les plus peuplés après le Nigeria. Certes, pas très loin devant les pays du Sahel au niveau de la population, mais au niveau du poids économique, il est très clair que la CEDEAO, même à 12, n'est pas comparable d'un point de vue économique au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Mmh.
Mais il y a des coopérations entre et c'est ce qu'évoquait Sidikaba, il y a des coopérations entre AES et CEDEAO. Mmh. Par exemple, entre le Niger et le Nigeria, il y a des coopérations importantes.
Tout à fait, mais je pense même que ce n'est pas simplement la liberté de circulation des biens et des personnes, les flux de personnes, et là aussi, si vous regardez les flux de personnes, vous avez une population, des populations sahéliennes, notamment Mali et Burkina Faso, qui sont très importantes dans les pays côtiers voisins, notamment la Côte d'Ivoire, et depuis très longtemps, il y a des liens culturels et économiques très forts dans l'ensemble de cette région, qui ne font pas la différence entre Sahel et pays côtiers. Donc, ce qu'on est en train de casser au niveau de la région, c'est cette dynamique de solidarité qui existait déjà avant l'institutionnalisation et avant la CEDEAO, de par à nouveau la proximité culturelle. Mais ce qu'on est en train de casser aussi, c'est la projection dans l'avenir. Une organisation régionale, c'est un projet. Aucune organisation régionale ne s'est construite en 10 ans, 20 ans, 30 ans et en ayant les mêmes objectifs et les mêmes manières de fonctionner. Et donc, ce qu'on est en train de casser, c'est la projection de nos communautés ensemble, de nos pays ensemble et des populations ensemble.
Mais c'est le projet de l'AES, c'est le projet de cette alliance des États du Sahel qui casse cette dynamique?
Alors, ce n'est pas simplement le projet de l'AES qui casse la dynamique. C'est une séquence d'événements depuis une douzaine d'années, notamment la crise au Mali, qui a abouti à la fois à des mauvaises décisions de la part de la communauté, mais il ne faut pas oublier quand même que si ces pays sont à ce point fragilisés, c'est d'abord la responsabilité de ceux qui les ont dirigés pendant des décennies. Ces trois pays, si on regarde du point de vue cette fois-ci des indicateurs de bien-être, ce sont aussi les trois qui ont les indicateurs de développement humain les plus faibles dans la région. Je viens de regarder à nouveau les chiffres. C'est ça la réalité. Et donc, on ne peut pas simplement accabler une organisation régionale en oubliant qu'une organisation régionale, c'est quand même l'ensemble des États membres. Et dans ces États membres, ces trois pays ont toujours été des pays moteurs qui ont fait partie de toute la construction de l'organisation. Et ce n'est pas à nouveau aujourd'hui la CEDEAO qui est responsable aujourd'hui de l'état de fragilité sécuritaire, politique, économique des États membres et notamment des États du Sahel. Après, moi, je fais une distinction. Les trois États peuvent se mettre ensemble. Il y avait l'autorité du Liptako Gourma, il y a des sous-ensembles dans la CEDEAO. Donc, pour moi, la création de l'AES n'est pas en soi un problème, surtout si ça permet d'avoir beaucoup plus de coopération sécuritaire. Mais le problème, c'est plutôt le départ de la CEDEAO et le niveau de tension aujourd'hui entre des États voisins. On peut revenir quasiment à des scénarios de conflits entre États, ce que la CEDEAO avait permis d'éviter depuis des décennies.
Sidikaba, que peut faire, si on se projette sur l'avenir, que peut faire la CEDEAO pour se relancer? En mai, elle va fêter ses 50 ans d'existence. Vous avez évoqué l'enjeu économique, l'enjeu sécuritaire. Il est mis à mal par le projet de l'AES. Est-ce que ce n'est pas le boulet, le caillou dans la chaussure de la CEDEAO, la situation sécuritaire? Il y a une force en attente. Est-ce qu'il faut la relancer? C'est une force militaire conjointe des États membres qui est mobilisable par le président de la Commission, dans le contexte évidemment sécuritaire de la région.
Non, passer le moment d'émotion, passer toutes les incompréhensions, il va forcément falloir que la CEDEAO et l'AES travaillent ensemble pour relever le défi sécuritaire.
Donc l'avenir de l'Afrique de l'Ouest, c'est CEDEAO plus AES.
Oui, l'avenir, en tout cas, les deux organisations sont condamnées à trouver des passerelles, à mettre en place de coopération sur le plan sécuritaire, par exemple. J'ai évoqué le fait que la menace sécuritaire est aujourd'hui en train de déborder le Sahel pour arriver dans les pays du Golfe de Guinée. On va vers une deuxième zone de trois frontières entre le Burkina Faso, le Bénin et le Niger. Une troisième zone de trois frontières entre le Togo, le Bénin et le Burkina Faso. Donc, pour la réponse aux défis sécuritaires, elle ne peut être que transnationale et elle ne peut même être que régionale. Et c'est la CEDEAO qui a vocation à porter cela. Le fait que le pays de l'AS ait mis ensemble une force de 5000 hommes qui va permettre de lutter contre le défi sécuritaire, contre le terrorisme, c'est une valeur ajoutée. Ouais. Mais rien n'empêchait que la CEDEAO, que le pays de l'AS travaille, comme on a pu le voir avec le G5 Sahel, que les pays de l'AS travaillent avec la CEDEAO pour avancer sur cet agenda sécuritaire qui est un agenda commun. Finalement, parce que les pays de l'AS, ce serait illusoire de penser que parce qu'ils ont mis ensemble une force de 5000 hommes, peuvent régler le défi sécuritaire s'ils ne parlent pas avec le pays qui sont encore dans la CEDEAO.
Tout est dans la coopération entre les deux. La CEDEAO ne tiendrait plus aujourd'hui, serait menacée aujourd'hui d'existence, d'avenir, si l'AES n'existait pas pour est-ce que ce serait le canard boiteux et que l'AES permet à la CEDEAO aujourd'hui d'avancer ensemble?
Non, moi je ne pense pas que l'AES aurait pu exister à côté de la CEDEAO.
Moi, je pense que l'AES existe parce que la CEDEAO est affaiblie.
Oui, parce que les pays de l'AES ont fait un diagnostic sur l'échec de la CEDEAO et ont tiré une conséquence qui, à mon avis, n'est pas la bonne, celle de partir. On peut voir les insuffisances de la CEDEAO et travailler à ce que tout change, y compris sur la question de la gouvernance économique et politique, parce que il y a des pays comme le Sénégal, même le Togo relativement, qui sont critiques envers un certain nombre de fonctionnements de la CEDEAO, mais qui ne sont pas partis. Peut-être que la solution aurait été de rester pour obtenir la transformation, parce que partir, à mon avis, n'est pas la meilleure des choses, parce que trois pays ensemble, je pense que ça ne suffira pas pour relever le défi sécuritaire, ni pour réussir l'intégration économique, d'autant que ces pays sont des pays continentaux.
Gilles Yabi, le mot de la fin, est-ce que vous êtes d'accord avec Sédic Abba? L'avenir de l'intégration ouest-africaine, c'est la CEDEAO plus l'Alliance des États du Sahel?
Alors ça, je ne sais pas, parce que je ne sais pas si les dirigeants qui sont actuellement au pouvoir et qui ont pris cette décision le seront pendant des années ou qu'ils le seront éternellement. En tout cas, éternellement, ce sera étonnant parce que personne n'est au pouvoir éternellement. Et donc, je crois qu'il faut vraiment, d'une certaine manière, éviter vraiment beaucoup de simplifier le débat, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on entend beaucoup dans la région, je pense qu'il y a énormément de mauvaise compréhension à nouveau de l'utilité d'une organisation régionale. Et lorsqu'on parle de la CEDEAO, de qui on parle en fait? De quoi on parle? On oublie que les présidents, le président de la commission, les commissaires, les présidents qui sont membres de la conférence des chefs d'État, ils ne font que passer. Ils ne font tous que passer. C'est un projet. C'est des institutions, des mécanismes qu'on a mis en place laborieusement depuis à nouveau 5 décennies. Il n'y a aucune région du monde où on a ce niveau de solidarité qui a été instauré, en particulier dans un contexte de pays à revenus plutôt faibles. Évidemment, l'autre modèle d'intégration très avancé, c'est l'Union européenne. Et l'Union européenne, elle a commencé par le charbon et l'acier. Elle n'a pas commencé par un projet d'union politique. Donc, je crois qu'à nouveau, on ne prend pas la mesure aujourd'hui de l'affaiblissement collectif que représente la sortie de ces trois pays de la CEDEAO. Et le sentiment, j'ai encore entendu parler d'échec de la CEDEAO. Ce n'est pas l'échec de la CEDEAO, le problème sécuritaire et de développement économique et social du Mali, du Niger, du Burkina Faso et de beaucoup d'autres États, d'ailleurs, de la CEDEAO. C'est d'abord les États membres, ce n'est pas une organisation régionale. Et peut-être le tout dernier mot, c'est vraiment sur la question démocratique et de l'état de droit. C'est très important de mon point de vue. Mon angoisse en tant que citoyen d'un pays de la région et citoyen ouest-africain croyant à l'intégration, c'est qu'on arrive à une situation où, en fait, on se dit dans tous les États membres, chacun fait ce qu'il veut. Ouais. Le président, même s'il arrive au pouvoir, il peut faire absolument ce qu'il veut. C'est un retour à des régimes autoritaires. On a connu ça, ça n'a pas été un grand succès du point de vue sécuritaire, du point de vue politique et du point de vue économique et social.
Eh bien, merci Gilles Yabi. Donc, l'organisation CEDEAO, pas à bout de souffle, en tout cas ébranlée, peut-être pourra s'appuyer à l'avenir sur l'AES. Merci beaucoup Gilles Yabi, Sédic Abba, Florence Ponce à la préparation de ce débat et Claude Battista à sa réalisation. Allez, coup d'œil à la pendule. Après le grand journal du soir, ce sera Afrique Soir dans une grosse demi-heure. Bonsoir Sylvie Berruet.
Bonsoir Romain.
Allez, quel programme ce soir Sylvie?
La RDC, bien sûr, après Kinshasa, le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, est à Kigali. Une démarche diplomatique qui vise à désamorcer la crise dans l'est du pays. Nous ferons le point sur la situation à Goma. principale ville de l'Est de la RDC où est entrée ces derniers jours la rébellion du M23, soutenue par Kigali. La Belgique demande à l'UE de sévir contre le Rwanda et c'est dans ce contexte de tension que s'ouvre demain le sommet de la SADC. Le grand oral en Suisse pour les prétendants au fauteuil de patron du CIO, le Comité International Olympique. Parmi les candidats, l'ancienne nageuse zimbabwéenne Kirsty Coventry, double championne olympique 2004 et 2008.
À tout à l'heure, Sylvie Berruet, et restez à l'écoute dans 30 secondes, le grand